Bonjour, vous écoutez Escapade en Garrig sur Radio Escapade. Aujourd'hui, nous allons parler de glanage, de plantes sauvages, de botanique avec Françoise Liénard. Françoise est animatrice à l'environnement auprès de diverses associations comme l'Œil Vert et le CIVAM du Vidourle. Et elle enseigne également la botanique à l'Université Populaire du Grand Alès. Aujourd'hui, nous lui avons demandé de venir témoigner pour deux raisons essentielles. D'abord, pour ses connaissances sur le sujet, mais aussi car elle est membre active du collectif des Garrigues. En effet, lors du forum du collectif du 7 février à la CAF coopérative de Calvisson, une cinquantaine de membres étaient présents et se sont positionnés à propos des 7 sujets proposés lors du forum précédent. Les participants ont noté leur intérêt pour certains sujets en priorité et aussi la volonté ou non de s'impliquer dans ces projets. Et un sujet est ressorti de manière évidente avec un regroupement avec un autre sujet proche. Et il s'agissait de créer un répertoire de plantes sauvages comestibles, des haies et de la faune et la flore du territoire. Donc pour cette occasion, l'occasion de l'arrivée du printemps et cette coïncidence, nous avons demandé à Françoise de venir de nous parler de tout ça. Alors Françoise, peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours, s'il te plaît?
Bonjour, je m'appelle Françoise Liénard. Je travaille depuis une quinzaine d'années dans l'animation à l'environnement. Et j'enseigne aussi la botanique, comme tu l'as dit, à l'Université populaire du Grand Alès, avec grand plaisir d'ailleurs. Et j'aime beaucoup passer du temps à quatre pattes dans l'herbe, à faire de la photo pour me rapprocher un petit peu des plantes. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'immerger dans la botanique. C'est en photographiant les plantes et en ayant le plaisir ensuite de les voir à l'écran, avec toutes leurs petites particularités, de voir les détails, des étamines, des pistils, et peu à peu aussi de voir tous les insectes qui vivaient autour de ces plantes et de voir l'interaction entre les plantes et les insectes, ça m'a énormément intéressée. Et donc voilà, j'en fais mon métier aujourd'hui. Mais c'est vrai que déjà quand j'étais enfant, j'avais une mère qui était très très intéressée par la nature et qui ramassait des plantes sauvages, qui nous soignait avec les plantes, qui nous faisait des tisanes, qui fabriquait aussi des pommades à base de plantes. Donc en fait, très jeune, j'ai appris à connaître les plantes, mais c'était dans les Alpes suisses. Et quand je suis venue m'installer dans le Gard il y a une trentaine d'années maintenant, j'ai été complètement éblouie par la diversité de la flore dans le Gard. Et en particulier dans la garrigue.
C'est ça qui te plaît dans la botanique, c'est ce lien un peu historique que tu as avec les plantes.
Mais c'est vrai que quand je vois des plantes, au début, je ramassais des plantes, effectivement, surtout pour les manger. Et puis, petit à petit, ça a été un intérêt, comme je l'expliquais, aussi de voir les interactions entre la faune et la flore, en particulier donc, ce qu'on appelle l'entomofaune, c'est-à-dire les insectes, les pollinisateurs, les butineurs, les insectes qui se nourrissent d'étamines ou de pétales, de nectar, de pollen, etc. Et c'est vrai que c'est un plaisir renouvelé chaque année à partir du mois de février-mars, dès que les premières fleurs arrivent en garrigue. Voilà. C'est un émerveillement à chaque fois. Et je suis quand même assez inquiète de voir que, bon là, on a des rapports alarmants qui nous disent que les insectes sont en train de disparaître. Et on est obligé de penser que ben, dans la foulée, on risque bien de voir disparaître aussi des espèces de plantes, puisque les insectes et les plantes sont liés justement. Donc on a du souci à se faire en ce moment.
Alors parlons plutôt positivement. Peux-tu nous citer là, comme ça, d'un coup, les 4 premières plantes qui te viennent à l'esprit ? Et les plantes sauvages, comestibles, que tu vois au printemps en garrigue, enfin, auxquelles tu penses quand tu penses printemps en garrigue.
Alors, il y a des plantes comestibles, beaucoup de plantes comestibles qui poussent très près des humains, qui sont approchées un peu des habitations, hein, des plantes qui sont ce qu'on appelle les plantes ruderales, qui sont des plantes qui aiment les terres remuées, les terres qui ont été travaillées par les humains. Et ce sont des plantes voilà, qu'on voit un peu partout, même dans les villes, maintenant on a abandonné les produits phytosanitaires sur les trottoirs. Donc on voit apparaître de nouveau ces plantes qui sont des compagnes de l'homme depuis que l'homme existe. Et en garrigue, on va dire, quand on sort vraiment des villages, qu'on va dans les chemins... de garrigue proprement dite, on va voir, voilà, il y a quelques plantes qui sont bien particulières, comme par exemple ce qu'on appelle ici le bréou, qui est la laitue vivace. Et c'est une des salades les plus tendres, les plus croquantes et les plus goûteuses que je connaisse. Le bréou, donc la laitue vivace, c'est une plante qui a des feuilles très découpées, et qui va faire des fleurs bleues au mois de mai, à peu près. Mais ouais. Donc quand le printemps est déjà bien, bien entamé. Et quand on ramasse cette salade, il faut faire attention de ne pas naturellement abîmer la plante, le pied de la plante, la racine. Et on prend juste quelques feuilles sur la rosette. Comme ça, on va maintenir la ressource. Pour moi, c'est quelque chose de primordial, cette pensée que l'année prochaine, au même endroit, je vais pouvoir retrouver les plantes que j'aime et que d'autres personnes pourront aussi les trouver à cet endroit-là. Ensuite, on a aussi dans les plantes qui poussent dans les terrains un petit peu caillouteux, un peu secs, sur les talus, on a le terre-grêpe, ou la terre-grêpe d'ailleurs, je ne sais pas si je me souviens pas si on... si c'est féminin ou pas. Donc pour les scientifiques, c'est la Rechardia picroides. C'est une plante qui pousse en rosette de la famille des astéracées, qu'on appelait avant les composés. Et c'est une plante qui fait des petites fleurs jaunes, comme beaucoup de plantes qui ressemblent un peu au pissenlit. Mais c'est pas un pissenlit, voilà, c'est une Rechardia. Et on la reconnaît parce que au printemps, on voit encore les tiges de l'année précédente avec au sommet de la tige quelque chose qui ressemble un petit peu à un petit entonnoir en paille. Et c'est le capitule de la fleur qui était là l'année précédente. Donc elle demeure tout l'hiver et on la retrouve même au printemps, qui est associée à la rosette. On la reconnaît comme ça.
Là, pour ces deux premières plantes, c'est les feuilles qu'il faut récupérer et à quel niveau, enfin, quand elles sont jeunes, quand elles sont plutôt vieillissantes, enfin, c'est...
Alors en fait, la plupart des salades, hein, enfin, toutes les salades même, elles sont bonnes quand elles sont bien tendres. Donc effectivement, on les ramasse quand elles sont à l'état de rosette, avant donc que la fleur ait surgi du cœur de la rosette. Après, c'est vrai que quand les plantes ont fleuri, le pissenlit, par exemple, on peut récolter les feuilles même après la floraison, mais dans ce cas-là, on va plutôt les utiliser pour faire ce qu'on appelle la bourbouillade, c'est-à-dire on va les faire cuire, souvent en association avec d'autres plantes, comme ce qu'on appelle ici la rouselle, le coquelicot. Qui est plus facile à reconnaître quand il est en fleur que quand il est à l'état de rosette. On va l'associer aussi avec la mauve, qui est une plante extraordinairement bonne, très douce et un petit peu mucilagineuse. Et puis aussi, dans la région, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de gens qui consommaient la langue de belle-mère. Et la langue de belle-mère, c'est ce qu'on appelle la patience violon, un rumex, une plante qui contient de l'acide oxalique, donc que je recommande de manger avec parcimonie, parce que justement l'acide oxalique n'est pas très bon pour nos organismes, puisqu'il il va influer sur le fonctionnement des reins, et il va souvent se fixer aussi dans les articulations. Donc les gens qui ont des rhumatismes devraient éviter d'en consommer. Après, pour les bonnes salades qu'on trouve en garrigue, on a aussi il y a la porcelle enracinée, une plante qui a des feuilles qui pousse aussi en rosette, et une rosette qui est très très plaquée contre le sol. Il faut la manger quand elle est très jeune, parce qu'ensuite elle va développer un peu des petits poils qui ne sont pas très agréables sous la langue. Mais c'est une salade qui, jeune, est très craquante et très agréable. Et puis, naturellement, en ce moment, c'est la pleine saison pour ramasser les asperges sauvages. Et là, il faut avoir l'œil pour repérer les jeunes pousses au pied des plantes mères qui ressemblent un petit peu à des petits sapins un peu couchés, un petit peu tortueux, des mini-sapins, on va dire. Voilà, donc l'asperge sauvage, c'est une plante qui est toxique, dont les fruits sont toxiques, mais dont les jeunes pousses sont consommées depuis très très longtemps.
Et très bonne. Merci déjà pour ce préambule sur les fleurs comestibles, les plantes comestibles en garrigue. On va écouter un petit morceau de musique et après on se retrouve. À tout de suite.
Too late for changing the color of her, the color of him. It really does matter what skin you're in. Big yellow taxi cab, pass me by. Stop on the next corner to pick up a white guy. The color of you, the color of me. You can't judge me.
Donc vous êtes toujours sur Escapade en Garrigue et nous sommes toujours avec Françoise qui nous parle de plantes sauvages avec passion. Donc dans la première partie, elle nous a proposé des fleurs qui sont comestibles et qui nous ont donné vraiment l'eau à la bouche. Mais maintenant, c'est important peut-être de savoir quelles fleurs, quelles plantes on reconnaît et comment on peut les cuisiner. Enfin, donc celles que tu nous as détaillées tout à l'heure, comment on les cuisine ? Est-ce que c'est cru ? Est-ce que c'est cuit ? Est-ce qu'il y a des accompagnements à privilégier ou plutôt à bannir ?
Eh bien, bon, déjà, il faut ramasser ces plantes, comme je l'ai dit, quand elles sont jeunes et tendres. Donc certaines plantes se ramassent dès l'automne, en fait, dès le mois de, chez nous, octobre. Quoique l'an dernier, on a eu des gros soucis pour trouver des plantes avec la sécheresse avant les pluies. Donc l'automne dernier, on n'a pratiquement pas fait de cueillette. C'était un peu catastrophique. Mais par contre, au printemps, on s'est bien rattrapé parce qu'il a bien plu. Et c'est vrai que là, ce mois de mars, ça a été vraiment un festival pour les... Pour trouver des plantes comestibles, on a vraiment eu beaucoup de chance. Donc les ramasser jeunes, les ramasser dans des endroits propres, c'est-à-dire pas à proximité des routes, pas là où les chiens ou les animaux domestiques vont faire leurs besoins, bien sûr. Et puis si on ramasse des plantes sauvages dans les vignes, il faut être vraiment très très attentif. Bon, déjà, il faut demander l'autorisation du propriétaire des vignes pour aller récolter ces salades. Et puis, privilégier les vignes qui sont cultivées en agriculture biologique, en viticulture biologique, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de plantes qu'on peut trouver dans les friches, mais... c'est vrai que si on regarde un petit peu, en fait, beaucoup de friches sont un petit peu pauvres. Et ça résulte du fait que les cultures ont été très souvent faites avec l'apport d'herbicides. Et ça a tué énormément de plantes dans ces cultures. Et quand les friches sont revenues, en fait, il faut beaucoup de temps pour que la diversité revienne, en fait, dans ce type de friches qui ont été traitées aux herbicides. Donc il faut de la patience. Et il faut s'amuser à chercher des bons coins. Ça, c'est toujours un plaisir, voilà, de repérer au printemps, voilà, où poussent les plantes. Et puis ensuite, on peut y retourner l'année suivante, on regarde comment évoluent les choses. On regarde aussi voilà, comment les plantes, petit à petit, arrivent à attirer des insectes. Et samedi dernier, par exemple, j'étais en Vaunage et j'ai eu le plaisir de voir une prairie donc avec plein de plantes comestibles, mais aussi plein d'abeilles, des abeilles domestiques et aussi des abeilles sauvages. Des toutes petites abeilles qui sont spécialisées sur certaines plantes, sur le butinage, en fait, de certaines plantes. Voilà, donc les cueillir jeunes, les cueillir à des endroits bien, bien propres et pas chez des particuliers, pas dans les endroits clos.
D'accord, merci pour ces détails. Ensuite, tu nous as parlé des attraits gustatifs des plantes. Est-ce qu'il y a d'autres vertus aux plantes ? Et peut-être pas les mêmes. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ?
Bon, alors les plantes, au printemps, on va les manger en salade. Ensuite, quand elles vont pousser un petit peu, quand elles vont grandir, les feuilles vont devenir un peu plus coriaces. Là, on va les cuisiner en bourbouillade. Et puis, souvent, à partir du mois de mai-juin, on pourra commencer à récolter ce qu'on appelle les sommités fleuries. Et ce sont les fleurs, quand elles s'épanouissent, on va récolter en fait, tout ce qu'il y a au bout des tiges. Et ça, on va souvent en faire des tisanes. Des tisanes, on peut faire de la tisane avec du coquelicot, on peut faire de la tisane avec le millepertuis, on peut faire de la tisane avec... qu'est-ce qu'on peut consommer ? Ben, en ce moment, aussi le thym, quand il fleurit, c'est vrai que la fleur de thym, c'est excellent en tisane. Le thym n'est pas une salade, c'est une plante aromatique, mais c'est vrai qu'elle nous procure aussi beaucoup de vertus. Hein. Et donc, pour consommer toutes ces plantes qui ont des vertus médicinales, il faut consulter un naturopathe ou un herboriste pour connaître les bons dosages et pour ne pas se faire plus de mal que de bien.
Quand tu parles de tisane, ça veut dire qu'on cueille par exemple des feuilles de coquelicot et hop, on les met dans l'eau chaude, ou est-ce qu'il faut les faire sécher? Est-ce qu'il y a un processus particulier?
La plupart des plantes peuvent se consommer fraîches, donc en tisane avec des plantes fraîches. On peut aussi les faire sécher, mais à ce moment-là, il faut les faire sécher à l'ombre, les faire sécher le plus rapidement possible. Et surtout, dès qu'elles sont sèches, on va les enfermer dans des récipients hermétiques pour pas qu'elles reprennent de l'humidité, en fait.
Nous venons d'écouter Modern Blue de Rosanne Cash et nous sommes toujours avec Françoise. Donc tout à l'heure, tu nous as parlé des vertus des plantes, des attraits des plantes, des fleurs sauvages. Mais est-ce qu'il y en a aussi des dangereuses à éviter et est-ce qu'il y a aussi des caractéristiques qui nous permettraient de les identifier?
Alors effectivement, c'est une chose dont il faut absolument parler quand on parle des plantes comestibles, c'est qu'il y a des plantes toxiques et qu'il ne faut surtout pas se tromper. Donc maintenant, il y a pas mal de bouquins qui présentent les plantes comestibles et il y a quelques livres qui présentent qui montrent les différences entre les plantes comestibles et les plantes qui leur ressemblent. Il y a par exemple un livre qui a été écrit par Gérard Dusserre et Moutsi qui s'appelle, je crois, Jeunes pousses, où on voit les photos des plantes comestibles et juste à côté des photos de plantes qui leur ressemblent. Donc c'est pas mal d'avoir ça, mais c'est quand même très 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 utile et à mon avis c'est irremplaçable d'aller sur le terrain pour voir les plantes, pour apprendre à les connaître sur le terrain. Donc il y a maintenant pas mal d'associations qui proposent d'accompagner les gens, de les amener voilà, sur le, dans les champs, dans les friches. Et en général, voilà, c'est leur travail de montrer aussi, de faire découvrir les plantes toxiques et de mettre en garde les cueilleurs pour éviter des accidents. Il y a des plantes qui sont toxiques, il y a des plantes qui sont mortelles, dont la consommation peut vraiment vous conduire à l'hôpital, voire au cimetière. Donc c'est très important de ne pas se tromper. Alors par exemple, dans les plantes qui sont très toxiques, on a l'arôme, qui est une plante avec des belles feuilles, bien brillantes, qui est un peu pointue un bout, elle a un peu, la feuille a un peu la forme d'une hallebarde, on va dire, et c'est une feuille qui a des oreilles qui pendent un petit peu le long de la tige, comme ça, pointue au bout, souvent avec des taches, des dessins blancs, ou il y a une autre espèce qui a des dessins noirs, donc les deux espèces sont très très toxiques, les feuilles et aussi les fruits sont toxiques, sont très toxiques. Donc attention avec l'arôme, mais il y a d'autres plantes qui sont très courantes. Le lierre, par exemple, les baies du lierre sont toxiques. La brionne aussi, qui est une plante qui peut présenter des dangers importants, surtout pour les enfants, puisqu'elle fait des beaux fruits rouges, assez appétissants. Et qu'est-ce qu'on a ? On a aussi en garrigue, une plante, c'est un petit arbuste, un buisson, on va dire, qui s'appelle le Daphné Garou. Et ça, c'est une plante qui est hyper toxique. Donc, j'ai un ami qui cueillait des plantes pour un herboriste. Et il a voulu goûter une feuille de cette plante et il a eu la bouche en feu pendant 24 heures. Ça a été vraiment l'expérience atroce de sa carrière de cueilleur. Il était vraiment très très mal après cette ingestion. Et donc il m'a montré aussi, il m'a appris à connaître cette plante qui a des feuilles assez étroites, d'une longueur d'à peu près 3-4 cm, qui tournent autour des tiges, et puis des petites fleurs blanches, et ensuite des fruits rouges. Donc là aussi, attention aux enfants qui adorent les cueillir des petits fruits quand ils sont dans la nature. Donc il faut vraiment bien apprendre à connaître cette plante, et voilà, leur expliquer qu'on ne peut absolument pas la manger. Cette plante était d'ailleurs utilisé par les pêcheurs, notamment en Corse et dans les pays du Maghreb. On intoxiquait en fait les poissons, on faisait des gerbes de Daphné Garou qu'on piétinait bien dans des sacs et ensuite on mettait ces fagots dans l'eau et ça anesthésiait les poissons en fait. Ça tuait les poissons. Et après, on n'avait plus qu'à les ramasser à la main, comme des fruits mûrs. Apparemment, ça n'a pas de toxicité pour l'homme, mais bon, c'est une méthode quand même un peu barbare. Voilà, donc voilà pour les plantes toxiques. Rapprochez-vous des associations comme les écologistes de Lezière, l'œil vert, le CIVAM du Vidourle aussi, qui apprend aux gens à reconnaître les plantes comestibles. Et procurez-vous des livres, mais de bons livres.
Il me semble aussi qu'il y a l'euphorbe qui est toxique, non ?
Effectivement, toutes les euphorbes sont toxiques. Le latex, c'est le lait qui s'écoule des euphorbes, qui est très irritant. Et donc, si on se frotte les lèvres ou les yeux en ayant du lait de forbes sur les doigts, là, c'est, on passe un très mauvais quart d'heure.
Donc, s'il faut comprendre quelque chose, c'est manger sans modération les plantes sauvages, mais accompagner.
Alors, les plantes sauvages, il faut les manger avec modération. Ah. Parce que les plantes sauvages sont beaucoup plus riches en nutriments que les plantes cultivées. Elles contiennent beaucoup plus de fibres, ce qui veut dire qu'on va avoir souvent un transit un peu accéléré. Et puis, il y a voilà, certaines personnes qui peuvent avoir un petit peu des problèmes un petit peu de digestion si on consomme trop de plantes. Et puis, moi, je conseille aussi de manger des petites quantités de chaque plante. Et quand on fait une salade des champs, eh bien, c'est toujours intéressant de mettre plusieurs espèces de plantes, toutes, bien sûr, qu'on reconnaît à coup sûr, hein, pour ne pas s'empoisonner. Et comme ça, on évite d'avoir trop l'impact d'une seule plante sur son organisme. Et donc, c'est peut-être meilleur pour la santé aussi. En même temps, c'est plus intéressant pour le palais.
Et dans les associations que tu as citées, qui sont un peu connaisseuses de ce sujet, tu as cité l'Œil Vert. Et donc, tu peux peut-être nous faire un retour sur le Festival des plantes sauvages ou le Festival des salades qu'il y a eu très récemment sur notre territoire des Garrigues.
Voilà, et bien c'était la première année que l'Œil Vert mettait en place le Festival Salades Sauvages. Donc, il y a une quarantaine de personnes qui sont venues tous les soirs, enfin pas 40 personnes tous les soirs, mais sur l'ensemble du festival, il y a une quarantaine de personnes qui se sont déplacées pour participer à des balades le soir, de 6h ou à la nuit tombante. À la fin, on s'arrêtait parce qu'on ne voyait plus les plantes. Mais c'était des moments très très chouettes parce que c'était les gens du village qui venaient et qui ont découvert autour de chez eux, autour de leur maison, voilà, des plantes qu'ils ne connaissaient pas et dont ils ont appris qu'on pouvait les consommer. Donc un grand émerveillement de la part de beaucoup des personnes qui sont venues. Et puis il y a eu deux soirs où on a organisé en partenariat avec des structures comme il y a l'atelier Geste qui nous a accueillis une soirée, et puis une maison d'hôtes, la Mazade à Saint-Mamère, qui nous ont accueillis pour une dégustation, un repas dégustation de plantes sauvages comestibles. Et ça a été un festival pour le palais des personnes qui ont eu la chance de pouvoir venir partager ce repas. Malheureusement, on a manqué de place pour accueillir tous ceux qui voulaient y participer. Donc, on réfléchit à une formule un peu plus large pour l'an prochain.
Ça veut dire qu'il y aura une seconde édition, nous imaginons.
Forcément, il y aura une seconde édition parce qu'il y a beaucoup de demandes et parce que ça nous fait plaisir aussi de partager les connaissances traditionnelles, hein, autour de ces plantes comestibles qui ont toujours nourri les hommes.
Et donc, à vos agendas, hein, et en attendant le prochain festival, vous pouvez vous rapprocher des associations qui connaissent les plantes sauvages ou, comme l'a dit Françoise, rechercher par vous-même tout en étant bien accompagnée. Tout de même. Merci beaucoup Françoise pour ce témoignage, c'était très intéressant et nous aurons peut-être l'occasion de nous retrouver pour la prochaine saison, non peut-être pas en été parce qu'il se passe pas grand chose, mais plutôt à l'automne où là il va y avoir l'effervescence des fruits. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et une petite information concernant le collectif des Garrigues. Vous êtes tous conviés à une réunion d'organisation pour l'anniversaire du collectif des Garrigues. La réunion aura lieu le jeudi 12 avril à 14h aux cartes pour un anniversaire qui aura lieu le 9 juin à Boisseron. Voilà, et bien merci beaucoup et bon après-midi. Right. Would you watch them die?
like trying to get a hold of smoke and water.
With a federal agent's fragrance, I smell a pig, that's a cop who racist. I'm an ordinary project dude, I'm subject to genetically modified food that's FDA approved, mass produced, so we can tell a lie from the truth. Even though I'm flopping my Time Force suit, Learjet like a Concorde, swoop through the air, then I land in my Phantom coupe. And I still stand with the Ugandan youth, or the poor kids out in my scalp that live hostile. I ride for you when I ride with the top down, listening to Josh sounds. You see how that feel? I see these come with government seals. Open it, peep Nas getting at his enemies in the paragraphs and facsimiles. Governmentalists kill the Kennedys. I heard that Josh Stone got the remedy.
Governmental confusion. Governmentalists is illusion. Governmental confusion.